micro. Donc, pour remercier tous mes panélistes d'être ici, vous de vous être joints à ce débat ce soir, qui va être riche, et puis aussi qui en France est dans un contexte intéressant avec le débat sur l'immigration. Dans un premier temps, j'avais envie de vous présenter de façon plus approfondie chacun de mes panélistes. Donc je me tourne vers monsieur l'ambassadeur. Et donc, Nicolaus Meyer-Landru est l'ambassadeur d'Allemagne en France et auprès de Monaco. Je tiens à le souligner. Avant d'arriver à Paris en 2015, monsieur l'ambassadeur était le conseiller Europe de Angela Merkel. Il a une longue expérience sur les questions européennes, puisqu'il a été à deux reprises à la représentation permanente de l'Allemagne auprès de l'Union européenne à Bruxelles. Et vous avez été également porte-parole de la Convention européenne à Bruxelles.
Et de son président.
Et de son président, voilà. C'est important de le noter. Donc, une longue expérience. Et monsieur l'ambassadeur est parfaitement francophone. Non, ça aussi, c'est à noter pour ce soir. Voilà. Je me tourne maintenant vers vous, monsieur le préfet. Alain Régnier, donc vous êtes délégué interministériel chargé de l'accueil et de l'intégration, une fonction que vous avez depuis janvier 2018, donc vous êtes directement rattaché au ministre de l'Intérieur et vous avez été nommé par décret, forcément, et c'est une fonction qui a été entièrement créée, enfin vous nous en direz plus et puis vous nous expliquerez, vous expliciterez aussi vos fonctions, mais je tiens à revenir un petit peu sur votre carrière pour dire que vous avez mené beaucoup de questions en fait, mais qui sont assez liées d'une certaine façon, à la fois des questions liées à la politique de la ville, à l'engagement aussi à la citoyenneté, également au logement. Vous avez appartenu à plusieurs cabinets ministériels, je tiens à signaler ceux de Dominique de Villepin, de Jean-Louis Borloo, de Nelly Olin. Vous avez été également délégué interministériel à l'hébergement et à l'accès au logement des personnes sans abri ou mal logées. C'était entre 2010 et 2014. Et vous avez été également préfet délégué à l'égalité des chances dans le Rhône, secrétaire général de la délégation interministérielle à la ville, et donc conseiller pour la cohésion sociale. Non, mais je dis tout parce que je pense que ça intéresse notre auditoire, pour la cohésion sociale auprès de Dominique de Villepin. Je tiens maintenant à présenter également Antoine Savary, que je remercie vivement puisqu'il vient de Bruxelles pour nous ce soir, spécifiquement, qui est chef d'unité adjoint à la DG Home, donc la DG en charge des questions de migration. Vous êtes à la Commission européenne depuis 15 années. Vous travaillez plus particulièrement à la DG Migration and Home Affairs depuis 2007. Et vous avez été successivement dans plusieurs postes et en charge de questions à la fois de frontières extérieures, de visas. Vous avez été en charge du programme de sécurité intérieure et depuis 2015, vous coordonnez des questions d'intégration au sein de l'unité des migrations légales. Pas de faute, parce que Corinne Thor, à droite de monsieur l'ambassadeur. Alors, vous êtes chef de 1500 frontières France, mais je dirais, pour être plus... Enfin, voilà, nous en avons parlé. Responsable national des programmes français depuis 3 ans. Alors, on peut s'étonner que Médecins sans frontières ait des programmes en France, mais Corinne nous expliquera pourquoi et lesquels. Et je tiens à revenir aussi sur son parcours, parce que Corinne est à Médecins sans frontières depuis 12 ans. Elle a travaillé au sein du pool urgence de Médecins sans frontières, en particulier en Afrique, donc au plus près des conflits et des crises. Juste pour prendre quelques exemples, elle était en Mauritanie au moment de la crise au Mali, pour monter des camps de réfugiés, en Côte d'Ivoire au moment de la guerre à Haïti, juste après le tremblement de terre au Soudan, là encore dans le cadre des camps de réfugiés que monte Médecins sans frontières. Donc je suis aussi très heureuse qu'on ait une véritable actrice de terrain. Juste quelques mots, parce que je vais leur passer la parole tout de suite. Pourquoi Confrontation Europe revient sur cet enjeu d'accueil et d'intégration d'abord pour en parler de façon approfondie et posée dans un débat très hystérisé. On l'a constaté encore récemment avec, on peut même dire aujourd'hui, hein, avec le débat sur l'immigration aussi, parce que beaucoup de questions au niveau européen sur les enjeux de migration n'avancent pas. On le voit avec le paquet asile qui est bloqué et que la commission Juncker n'a pas réussi à débloquer. Là, c'est pas lié à la commission européenne, c'est lié à la volonté politique des États membres et au blocage qui existe au Conseil de l'Union européenne. On le voit aussi, c'est un débat où les questions de chiffres sont toujours mises en avant. On en donnera des chiffres et c'est très important de le faire, mais parfois c'est aussi cela qui justifie des je dirais, à chaque fois qu'on donne un chiffre, on peut l'analyser d'une façon négative ou positive. Bon, souvent dans l'immigration, c'est toujours fait de façon positive. Et j'avais beaucoup aimé une tribune de François Héran, qui est en charge de la chaire migration au Collège de France. Il avait appelé dans une tribune au Monde tout à fait récemment, au moment du départ, du début du débat à l'Assemblée nationale sur l'immigration, à ce qu'il y ait, de la part des politiques en particulier, une parole de raison plus qu'un discours de peur. Ce sont ces mots. Et nous, on revient sur ces enjeux-là parce que d'abord, on ne veut pas que ce soit que des enjeux nationaux. On pense qu'évidemment, ce sont d'abord des enjeux européens. L'exemple de l'Allemagne nous intéresse énormément, non pour dupliquer ce qui se passe en Allemagne, même s'il faudrait bien qu'on s'en inspire. Mais voilà, il faudrait qu'on se pose des questions sur pourquoi cela marche bien aussi dans certains pays et qu'est-ce que nous, en France, nous faisons. Et puis aussi, parce que la confrontation Europe, pour revenir un peu sur notre ADN, on aime confronter des acteurs de différents pays, de milieux très divers, et notamment sur la question de migration qui nous intéresse particulièrement. C'est d'autant plus important que tous ces acteurs de la société civile, enfin, que la société civile organisée est justement presque fracturée par cet enjeu de migration. On le voit aussi sur les enjeux, peut-être que Corinne nous en parlera, d'hébergement solidaire ou autre. Enfin, c'est un problème assez grand, et peut-être que j'ai envie de terminer juste cette courte introduction par des petits mots de Laurent Godet, qui vient de publier un ouvrage à Actes Sud. Alors là, j'aime bien, sur les questions de migration, entendre la voix des écrivains, parce qu'elle est parfois plus posée. Il vient de sortir un ouvrage qui s'appelle « Nous, l'Europe », et qui est une sorte de long poème en prose sur l'Europe, où évidemment, à des moments, il parle aussi des questions de migration. Il dit « Je dis colère face à cette Europe qui n'arrive pas à inventer une hospitalité d'État ». Peut-être qu'on peut s'interroger sur cette question-là ce soir. Et je me tourne d'abord vers vous, Antoine Savary. Je vous donne la parole en premier parce que c'est vrai que vous pouvez, au nom de la Commission européenne ce soir, nous donner à voir et à entendre ce qui se passe chez nous et aussi ailleurs et ce que fait la Commission européenne, son action.
Merci Clotilde et merci d'avoir invité la Commission à ce débat. Donc, vous m'avez demandé de donner un éclairage européen sur cette question de l'accueil, de l'intégration et de la migration, qui sont effectivement un sujet sur lequel on pourrait parler des heures. Mais donc, je vais essayer d'être bref, mais d'aller au fond des choses en parlant de trois choses. Essentiellement, en vous donnant des chiffres, essentiellement, pour remettre un peu le débat de la migration et d'intégration en perspective au niveau européen, mais aussi au niveau français et au niveau allemand, puisque nous avons la présence de l'ambassadeur ce soir avec nous. Je vous expliquerai ensuite quel est le rôle de l'Union européenne en matière d'accueil et d'intégration, quel est le cadre européen qui effectivement encadre l'action des États membres. Je terminerai sur un focus sur la situation française, sur quelques réflexions sur la situation française en matière d'intégration et d'accueil vu de Bruxelles, je dirais. Donc d'abord, j'aurais commencé par vous donner quelques chiffres sur en fait les ressortissants de pays tiers, parce que c'est bien de cela dont on parle. Il faut faire attention à la confusion quand on parle de migration entre les citoyens de l'Union qui sont des citoyens mobiles et qui peuvent exercer leur droit à la mobilité dans l'Union européenne et les ressortissants de pays tiers qui sont soumis donc à la législation en matière de migration, qui sont les migrants dont on parle, dont on va parler ce soir. Donc on a à peu près 22 millions de ressortissants de pays tiers dans l'Union européenne, ça constitue à peu près 4,4% de la population. Donc voilà, c'est un chiffre relativement bas. On a à peu près 35 millions de personnes qui sont nées en dehors de l'Union européenne, donc qui représentent 7,5% de la population. Alors évidemment, la taille de cette population, à la fois en valeur absolue et en pourcentage, varie en fonction des États membres. Le plus grand nombre se trouve en Allemagne, 5,5 millions. en Italie, 3,6 millions pardon, en France, 3,1, et puis en Espagne et au Royaume-Uni. Donc en pourcentage de la population, ce sont les États baltes qui ont le plus fort pourcentage, et le Luxembourg et l'Allemagne viennent ensuite avec 6,6% pour l'Allemagne. La France était un peu derrière. Donc ça, c'est pour les stocks, en fait. Combien on a effectivement de ressortissants de pays tiers dans l'Union européenne. Je voudrais vous parler des flux, parce que c'est ça qui est important également. Combien on accueille et on reçoit effectivement de migrants chaque année dans l'Union européenne. Donc les chiffres que je vais vous donner sont des chiffres récents de 2018. Donc on a à peu près 3,2 millions de nouveaux permis de résidence qui sont octroyés chaque année dans l'Union européenne. Donc voilà, il y a 3,2 millions de personnes de ressortissants de pays tiers qui s'installent dans l'Union européenne chaque année. Il y en a à peu près 270 000 en France qui sont octroyés par la France, 544 000 par l'Allemagne. Donc si on prend les deux pays réunis, parce que ça nous intéresse ce soir, on a à peu près 25% des nouveaux permis de résidence qui sont octroyés par les deux pays en 2018. Alors quand on regarde maintenant les motifs d'octroi de ces nouveaux permis, au niveau de l'Union européenne, le premier motif de délivrance de ces permis, c'est le regroupement familial, avec 28%. Donc ça, c'est important de le souligner. Le deuxième motif, ce sont des raisons de travail. Ce sont des gens qui viennent pour travailler, qui ont obtenu un permis de résidence sur des motifs professionnels. 20% poursuivent des études, donc éducation, et 10% seulement protection internationale. Donc effectivement, on se focalise souvent sur la question de l'asile, de la protection, qui est une question extrêmement importante. Mais quand on regarde finalement l'arrivée de ressortissants de pays tiers et l'installation de ressortissants de pays tiers légalement dans l'Union européenne, on s'aperçoit que la protection internationale ne représente que 10% du total des gens qui s'installent chaque année dans l'Union européenne. Alors, on a des chiffres très différents entre la France et l'Allemagne pour 2018. En France, on a une tradition, effectivement, d'immigration pour des raisons familiales, qui est toujours le premier motif, avec un peu plus d'un tiers, à peu près entre 35 et 40% des flux. Ensuite, l'éducation, qui est aussi un motif important pour la France, à peu près 30% de façon régulière, 13% pour des raisons de travail et 11% en 2018 pour des raisons de protection internationale. En Allemagne, on a un pattern très différent, puisqu'on a 40%, et qui est le premier motif pour des raisons de protection internationale. C'est lié évidemment à l'afflux en Allemagne de ressortissants de pays tiers et de demandeurs d'asile en 2015-2016. Et donc avec ces effets, on était en Allemagne à 50%, même en 2016-2017. Ça a un peu baissé à 40%. 35% pour la famille, 13% travail, 12% éducation. Donc on a vraiment une situation qui est très différente. En termes de nationalité, dans l'Union européenne, ce sont les Ukrainiens qui sont les plus nombreux à recevoir des permis de résidence, les Chinois puis les Indiens. Pour la France, on a une situation très différente avec les pays d'Afrique du Nord qui dominent pour des raisons de regroupement familial. Donc voilà, je voulais vous donner un peu ces chiffres pour remettre en perspective le débat un peu sur la migration et l'intégration et la place finalement de la protection internationale dans la migration vers l'Union européenne. Ensuite, le second point que je voulais aborder avec vous, c'était le rôle de l'Union européenne dans l'intégration et dans l'accueil. Donc, en matière d'intégration, l'Union européenne a un rôle de soutien des États membres. Donc, les États membres sont vraiment responsables de la définition de la politique d'intégration et des mesures qui sont mises en place dans ce cadre. Il n'y a pas de compétences propres, je dirais, de la Commission et de l'Union européenne en cette matière, mais une compétence de support qui se fait essentiellement à travers la création de plateformes d'échange et de soutien financier à travers différents fonds européens et principalement le fonds Asile, Migration, Intégration que vous connaissez peut-être et le fonds social européen qui sont les deux principaux fonds pour soutenir les actions en matière d'intégration. Il n'y a pas d'initiative en matière législative d'harmonisation des systèmes d'intégration. D'ailleurs, le traité le stipule clairement. L'Union peut intervenir dans ce domaine à l'exception de la formulation de propositions législatives pour harmoniser les systèmes d'intégration. Donc ça, c'est important à souligner. Vraiment, la politique d'intégration, c'est quelque chose qui ressort d'abord des États membres. Et on a vraiment des traditions et des systèmes en place qui sont assez différents en fonction des États membres. Alors, quand même à souligner, depuis 2000, on a un acquis en matière de migration légale qui fixe les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans l'Union européenne pour certaines catégories de ressortissants, travailleurs saisonniers, travailleurs hautement qualifiés, etc. Et pour les demandeurs d'asile, donc on a un cadre européen au niveau législatif. Effectivement, on a développé tout un système commun européen d'asile depuis à peu près 2000. avec donc toute une série de directives qui ont été adoptées. Et la principale, donc, en matière d'accueil, est la directive accueil, justement, qui fixe, en fait, qui donne un cadre donc, aux États membres, notamment pour l'accès au logement, la nourriture, les soins de santé, l'accès à l'emploi, l'accès aux soins médicaux, qui fixe également les conditions selon lesquelles les États membres peuvent placer en rétention les demandeurs d'asile et dans quelles conditions, en particulier pour certains publics vulnérables. Donc ça, c'est un cadre européen, effectivement, qui existe, qui est en place et pour lequel la Commission a formulé des propositions d'amélioration et de changement, mais qui, comme l'a souligné Clotilde dans l'introduction, sont bloquées actuellement. Donc ces propositions de révision du système européen d'asile ont été formulées en 2016, donc avec une révision du paquet asile, mais comme vous le savez, donc cela est bloqué à cause des divergences sur effectivement le règlement de Dublin et la répartition des demandeurs d'asile à l'intérieur de l'UE en cas d'afflux massif. Donc je ne m'étendrai pas trop sur ça, mais ce qui est important de voir dans la révision de la directive accueil, il y a un certain nombre d'améliorations, notamment une harmonisation des conditions d'accueil, une modification du délai pendant lequel les États membres peuvent bloquer en fait l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile, qui est actuellement de 9 mois et donc qui serait ramené à 6 mois. D'ailleurs, la France a anticipé cela, puisqu'actuellement la France a fixé à 6 mois, l'Allemagne 3 mois. Donc ce délai pendant lequel les États membres peuvent bloquer en fait l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile. Et une meilleure perspective d'autonomie et d'intégration sur le marché du travail, avec une égalité de traitement renforcée avec les nationaux. Donc, ça, c'était mon deuxième point sur le rôle de l'Union européenne. Et enfin, troisième point, je terminerai avec cela, sur quelques réflexions sur la situation française en matière d'accueil et d'intégration. Alors, c'est vrai qu'en France, on se focalise beaucoup, et en particulier dans les médias, sur les demandeurs d'asile, à juste titre, mais je voudrais encore revenir à ce que je disais en introduction. Les enjeux en matière quantitative sont essentiellement en France sur l'intégration des personnes qui viennent pour des motifs familiaux. On a 3 fois plus de gens qui viennent aujourd'hui en France pour des motifs familiaux que de gens qui viennent pour des motifs de protection internationale. Et ces gens qui viennent en général sur des motifs familiaux sont confrontés également à des problématiques d'intégration assez difficiles, notamment au niveau des femmes. On a un taux d'emploi des femmes en France pour les femmes ressortissantes de pays tiers qui est de 20 points inférieur aux femmes françaises. Donc c'est quand même un gap qui est très important. Et je dirais qu'au niveau du dispositif d'intégration, il y a 2 ans, la France était quand même assez en retard par rapport à d'autres pays, en particulier l'Allemagne ou les pays scandinaves. Mais la note positive, c'est qu'il y a eu des efforts de fait depuis 2 ans importants, avec une révision effectivement de la politique d'intégration. Et ça a été fait dans la plupart des États membres. Donc en 2016-2017, on a vu certains États membres se doter même de stratégies d'intégration qui n'existaient pas auparavant. Et en fait, bon, pour nous, il y a eu des avancées extrêmement positives, notamment le fait qu'on donne maintenant une carte de séjour pluriannuelle, donc de 4 ans aux bénéficiaires de protection internationale, qui permet donc de considérer effectivement le processus d'intégration dans la durée. En Suède, on est passé par exemple, pour vous donner un exemple, on a une approche beaucoup plus restrictive, puisqu'on est passé d'une carte, d'un permis de séjour indéterminé à 3 ans, donc avec un réexamen au bout de 3 ans. Donc on est quand même dans une situation qui est assez, assez intéressante au niveau français. On a doublé le nombre d'heures donc, de formation linguistique et civique. On a un volet beaucoup plus renforcé d'accompagnement vers l'emploi. Enfin, ça, le préfet Régnier pourra vous en parler. Et on a fait un accès du marché du travail qui a été ramené de 9 à 6 mois pour les demandeurs d'asile. Donc tout ça pour nous va dans le bon sens. On a toujours des mesures pour les réfugiés qui se structurent autour du droit commun, je dirais. Mais on a aussi des initiatives spécifique pour les réfugiés, je pense notamment au programme HOPE qui mélange la formation professionnelle, le logement, etc. et donc qui sont vraiment des actions très intéressantes qui vont être étendues d'après ce que j'ai lu et ça constitue vraiment une avancée. Aussi l'apprentissage de la langue avec une visée professionnelle qui est quelque chose qui se met en place dans beaucoup de pays, qui est vraiment quelque chose qui permet une insertion assez rapide sur le marché du travail, qui a été très très développé en Allemagne, qui est extrêmement développé dans d'autres pays comme le Danemark ou d'autres pays scandinaves. Alors les obstacles, je dirais en fait, quand on regarde le système français, on s'aperçoit que c'est un système assez centralisé, et quand on le compare avec d'autres pays européens, on s'aperçoit que par exemple le rôle des collectivités locales est encore assez faible. Pour prendre des exemples que je connais bien, le Danemark, la Suède, la Norvège, on a vraiment des systèmes où les municipalités sont totalement en charge de la politique d'intégration. Quasiment de A à Z, l'État joue un rôle d'encadrement, je dirais, mais ce sont vraiment les municipalités qui mettent en place la politique d'intégration de façon assez efficace, avec des liens très forts avec les acteurs de terrain. La faiblesse de la participation des migrants au développement et à la mise en œuvre des politiques, c'est quelque chose aussi qu'on note en France, mais pas seulement en France. Et ça, je pense que c'est quelque chose pour lequel on pourrait améliorer. Le problème de la connaissance linguistique, notamment pour les bénéficiaires de protection internationale, qui est souvent insuffisante pour accéder aux formations professionnelles. Donc ça, effectivement, c'est peut-être encore quelque chose sur lequel on peut travailler. On est à 400 heures maintenant dans le programme d'intégration. En Allemagne, on est à 600, voire 900 heures. Peut-être une piste à suivre. La reconnaissance des qualifications acquises dans les pays tiers, qui reste un problème majeur en Europe, mais également en France. Vous savez, le diplôme joue quand même un rôle quand même non négligeable dans l'insertion professionnelle. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et le problème du logement. Alors, on a un double problème au niveau du logement, avec effectivement des bénéficiaires, donc des réfugiés qui restent assez longtemps dans les centres de réception, même après avoir obtenu le statut, qui bloquent en fait l'accès à des places qui sont aujourd'hui limitées pour les nouveaux demandeurs d'asile. Donc ça, c'est une problématique que j'imagine que le préfet Rény aussi abordera. Alors, quelques pistes, hein, une meilleure coordination entre les acteurs. L'intégration, c'est vraiment un domaine où effectivement la coordination entre les acteurs, les ONG, les autorités publiques, les entreprises, employeurs, partenaires économiques, sociaux est primordiale. L'association des migrants peut-être à la politique d'intégration, à la définition des mesures qui les concernent en premier lieu. La reconnaissance et la valorisation des compétences qui ne sont pas forcément sanctionnées par un diplôme. Et je pense par exemple à ce qui a été mis en place en Allemagne par l'Agence pour l'emploi, qui en fait a mis en place un système de reconnaissance, de détection de compétences pour 30 métiers de base. Alors ça va soudeur, hein, c'est des métiers généralement manuels, mais donc qui permettent de valider en fait des compétences qui ont été acquises mais non reconnues par un diplôme dans un pays tiers, et qui est vraiment quelque chose qui est très intéressant, qui permet une insertion assez rapide sur le marché du travail. L'accès au logement, évidemment, c'est une problématique évidente. L'intégration dans le système scolaire assez tôt, avec effectivement un focus sur l'apprentissage du français, peut-être des classes différenciées, ça se fait déjà, mais peut-être à renforcer, et des mesures spécifiques pour l'emploi des femmes. Ça, c'est vraiment quelque chose également sur lequel beaucoup de pays européens sont confrontés, la France en particulier, mais d'autres pays sont confrontés à ce problème, en Belgique, aux Pays-Bas, etc. Peut-être un petit focus sur l'Allemagne. Donc l'Allemagne a été confrontée, comme vous le savez, à cet afflux de réfugiés en 2016-2017. Et très vite, en fait, il y a une mobilisation de tous les acteurs. Les chambres de commerce, notamment, ont joué un rôle très important. Alors, l'Allemagne avait un avantage, et ça, l'ambassadeur en parlera sûrement, c'est d'avoir ce système d'apprentissage dual avec ce système qui alterne donc formation professionnelle et formation en entreprise, et qui, effectivement, pour beaucoup de métiers en tension, etc., a permis une insertion assez rapide donc de réfugiés sur le marché de l'emploi. Et on s'aperçoit aujourd'hui, 4 ans après, donc sur 100 réfugiés qui ont été accueillis en 2015-2016, on s'aperçoit que 40 aujourd'hui sont donc intégrés sur le marché de l'emploi. On estime, l'OCDE estime qu'il faut à peu près 10 ans pour intégrer, pour atteindre un niveau d'emploi qui est équivalent à celui des natifs. Donc voilà, on est je pense, sur le bon chemin. Donc voilà, je m'arrête là, je vais épuiser mon temps.
Merci Antoine. Monsieur l'ambassadeur, je me tourne vers vous. Justement, il y a eu ce focus allemand. Je me tourne vers vous parce que je voudrais qu'on revienne vraiment sur cet exemple allemand. Je pense que on parle toujours, enfin, on se souvient de ce qu'a fait Angela Merkel. Parfois, elle est décriée, cette politique. Parfois, elle est saluée. Parfois, on dit les Allemands ont fait ça parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre, parce que leur population vieillit. Tout ça doit vous énerver. Enfin, c'est pour ça que je voudrais vraiment avoir votre analyse, votre décryptage de la situation, et puis savoir aussi comment ça se passe en Allemagne. Et l'Allemagne paraît être un exemple, en tout cas, en termes d'accueil et d'intégration.
Oui, merci beaucoup. Exemple, peut-être, c'est compliqué quand même. Je ne peux pas croire que ça se passe sans complication. Vous avez décrit un peu les différentes sources de migration. Moi, j'aimerais dire en introduction, en quelque sorte, ouvrir le regard un peu sur l'histoire, très rapidement. Parce que parfois, on a l'impression que l'Europe fait pour la première fois face à une question de migration ou d'accueil. C'est entièrement faux. L'histoire européenne est une histoire de migration. Toute l'histoire européenne. Et je peux vous. Hein, je dis toute l'histoire européenne est une histoire de migration. Et je peux vous entretenir toute la soirée en commençant par les siècles après la chute de l'Empire romain jusqu'à nos jours. Donc nous sommes tous, d'une certaine manière, issus des migrations multiples et séculaires qui ont marqué ce continent. Et parfois, j'ai l'impression qu'on découvre ça comme si c'était un phénomène tout nouveau. Ça ne veut pas dire que chacune de ces migrations n'a pas été compliquée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de conflits. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de ruptures et des fractures. Mais c'est un phénomène tout à fait ancien sur ce continent. Ça ne peut pas l'être différemment à cause déjà de sa géographie. Si on regarde seulement le XXe siècle, l'Allemagne de l'Ouest a accueilli en 1945-1946 12 millions de personnes, 12 millions, qui sont venus des Allemands ou des gens proches de l'Allemagne, originaires des pays de l'Est, qui se sont retrouvés dans un pays complètement dévasté, ruiné. Et c'est, après ça on dit que c'était des Allemands. Beaucoup de ces Allemands, ou des gens d'origine allemande qui venaient par exemple de l'Empire soviétique, ne parlaient pas un mot d'allemand. Hein. Ils avaient vécu depuis des générations en Russie. Donc, d'autres, oui, parlaient allemand. Je veux simplement dire que c'est quelque chose qui a beaucoup frappé la société allemande d'après-guerre. Si vous voulez, si je simplifie, tout Allemand aujourd'hui est soit descendant de réfugiés ou descendant de quelqu'un qui a accueilli des réfugiés. Parce que c'est ça ce qui s'est passé après la guerre. Je pense que parfois on l'oublie. Après, il y a eu un deuxième phénomène dans les années, des années 60 où nos autorités publiques ont fait appel à la main-d'œuvre étrangère pour nos industries. En Allemagne, c'était en grande partie turc, mais ce n'était pas que turc, c'était aussi yougoslave, c'était italien, ça venait un peu partout. Bon, je ne vais pas m'attarder sur ces exemples, mais j'aime bien quand même le rappeler pour mettre un peu ce débat aujourd'hui, parfois un peu nerveux, dans un contexte un peu plus large. Et vous en avez parlé rapidement. On parle d'un million de personnes qui sont arrivées en Allemagne en 2015-2016, ce qui est vrai, en tant que demandeur d'asile. Les chiffres se répartissent un peu autrement, mais pour l'essentiel, c'est l'ordre de grandeur. Mais même à cette période, les deux tiers des personnes qui arrivaient en Allemagne étaient des Européens qui venaient sous le droit de la libre circulation. Donc la vraie migration vers l'Allemagne dans ces années-là n'était pas les demandeurs d'asile. Et on n'en parle pratiquement pas. Et heureusement, c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant et positif. Une chose qui a été un peu plus difficilement vécue en Grande-Bretagne, mais ce soir, vous ne me demandez pas de parler Brexit, sinon... On est parti pour la gloire. Donc, et maintenant plus précisément sur les demandes d'asile. Il faut comprendre, il y a une différence importante entre l'Allemagne et d'autres pays. Ceux qui posent une demande d'asile en arrivant en Allemagne entrent dans un système de soutien de l'État au moment où il fait la demande. Das Asylbewerberleistungsgesetz. Un nom que la législation allemande est capable de produire, mais ça veut dire qu'il y a un soutien organisé par l'État pour les demandeurs d'asile à partir du moment où ils posent sa demande. Ça veut dire que j'ai beaucoup de gens aussi qui arrivent en Allemagne qui n'ont pas vocation à avoir une protection d'asile, mais qui font une demande d'asile parce que ça les fait rentrer dans un système de soutien, dans un premier système de soutien. Et mais aujourd'hui, on ne va pas vous assommer avec des chiffres, mais on voit que les chiffres en Allemagne ont beaucoup baissé. Je suis en 2018 à 180 000 demandes d'asile. C'est donc beaucoup moins. Cette année, ça va être à peu près 10% de moins. Donnez un autre exemple sur ce que vous appelez la stérilisation du débat. En Allemagne, arrive en ce moment en moyenne 400 personnes par jour. 400 personnes par jour. Depuis le début de l'année, les personnes redistribuées entre les pays européens parce qu'ils ont été secourus en mer, c'est 400. 400. Et c'est le sujet politiquement comme si c'était la chose la plus importante. Et je comprends pourquoi, je connais tout le détail. Mais il faut aussi mettre ça en perspective tous les jours. En Allemagne, arrive un nombre équivalent de demandeurs d'asile. Tous les jours, 400 en ce moment. Donc, quand on parle de la pression migratoire sur des pays comme l'Italie, comme l'Espagne, ou comme la Grèce, elle est réelle, elle est mesurable dans les ports, elle est mesurable sur les côtes, mais la pression réelle des migrations sur un pays comme l'Allemagne, et 10 fois, 15 fois plus important. Mais ils arrivent par frontière terrestre et par capillarité. Donc, je n'ai pas la même situation. Mais ça, parfois, il faut peut-être le dire. Il y a aujourd'hui, sur les demandeurs d'asile, à des différents titres, moins de 40% qui obtient un titre de séjour, 37%. 5 en 2015, donc très peu au droit de titre d'asile proprement dit, moins d'un pour cent pour des persécutions de ce qui est le droit d'asile individuel. Donc la plupart c'est réfugiés de guerre ou protection secondaire pour des raisons de nombre. Néanmoins, cette situation 2015-2016 était une situation et reste une situation compliqué politiquement en Allemagne. J'ai d'un côté 80% des gens qui disent dans des sondages encore aujourd'hui qui sont en faveur de l'accueil des réfugiés, 80%. Ces 80% à l'extérieur de l'Allemagne, on les prend rarement en compte. On écoute les 20% qui hurlent. C'est important de dire qu'il y a ces 80% sont là. Ils sont toujours là, mais il y a une nouvelle difficulté dans le débat allemand. Il y a donc aussi, s'il y a à peu près 40% qui reçoit un titre de séjour, il y en a 60% qui ne reçoit pas. Donc pour préserver l'accueil des réfugiés et des droits d'asile, il faut aussi organiser le retour de ceux qui n'ont pas de droit. Et ça, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup, qui est compliqué, vous allez le confirmer, monsieur le préfet. On a différents programmes, mais là aussi, le plus grand nombre des gens qui quittent l'Allemagne les quittent volontairement. On parle souvent des reconductions. Il y a des reconductions, mais sur les personnes qui quittent l'Allemagne, qui en ce moment entre 60 et 70 000 par an, il y a plus des deux tiers qui quittent l'Allemagne volontairement ou avec des programmes d'assistance volontaire pour qu'ils puissent retourner dans leur pays. Donc là aussi, bon, de l'autre côté, l'Allemagne a plusieurs étapes de législation que je ne vais pas énumérer en détail, modifier, adapter ses procédures d'asile. Nous sommes aujourd'hui à une situation où, en règle générale, une demande d'asile est traitée en 3 mois. Il y a des cas exceptionnels qui durent beaucoup plus longtemps parce qu'ils sont plus compliqués et qu'il faut un peu leurs moyens, mais l'objectif est important. Et accélération en particulier aussi pour ceux qui viennent des pays tiers dits sûrs. Il y a un certain nombre de mesures autour de ça. Il y a aussi un certain nombre de mesures qui permettent de mieux fixer les demandeurs d'asile dans certaines régions. Il y a un changement assez important de soutien pour ces personnes plutôt en nature qu'en liquide. Il y a donc une adaptation assez importante du dispositif, pas sur le principe du droit de l'asile, mais sur son application. Et à côté de ça, et vous l'avez mentionné, l'Allemagne en 2017 a pour la première fois dans son histoire fait une loi d'intégration. Une loi d'intégration qui essaye de définir à la fois ce que l'État peut offrir à ces personnes, mais aussi ce qu'il exige de ces personnes. Et il est important de traiter les deux volets de la médaille. Donc, soutien dans un sens de l'emploi proposé par l'État à hauteur de 200 000, de réduire, suspendre la nécessité de faire un examen de priorité d'examen d'emploi par rapport à d'autres, la possibilité pour quelqu'un qui a une formation d'y rester jusqu'à la fin de sa formation, même si son permis de séjour est plus court, pour que les entreprises effectivement l'engagent dans une formation. Donc un certain nombre de mesures qui visent à aider la personne à s'intégrer, de commencer avec des cours de langue pour ceux qui viennent des populations où la protection est en moyenne au-dessus de 50%, de ne pas attendre des 3-4 mois pour commencer la formation de langue. Donc un certain nombre de mesures de ce côté. Et de l'autre côté, on leur demande des lieux de résidence pour que, tant qu'ils ont des soutiens, ils peuvent aller ailleurs, mais à ce moment-là, il n'y a pas de soutien. L'obligation de prendre part dans les mesures d'intégration, vous avez parlé des cours de langue et des cours d'orientation. Cours d'orientation, c'est ce qu'on appellerait des cours voilà, de ce que c'est les valeurs et les droits de l'État, de la Constitution, de leur apprendre, et évidemment la possibilité, s'ils ne dispensent pas de ces obligations, qu'ils peuvent perdre des droits. Il faut qu'il y ait. L'intégration ne peut marcher que s'il y a aussi une volonté d'engagement de la personne qui cherche à s'intégrer. Il faut qu'il y ait une action des deux côtés. Pour faire vite, tout ça a un coût. L'État allemand, dans les années depuis 2016, dépense au niveau fédéral en moyenne 20 milliards d'euros par an. Pour des mesures liées à ces questions. Une partie importante, 6-7 milliards, sont dédiés à l'assistance des pays d'origine pour déjà aider à fixer les populations là où ils deviennent. Le reste est pour l'accueil, pour l'intégration, pour le soutien des communes. Et il s'ajoute à ça des dépenses faites par les communes et les Länder d'une manière décentralisée, donc difficilement à comptabiliser, mais je pense qu'on n'est pas loin sur l'ensemble des fonds publics de 20 milliards par an. Ça, c'est une des raisons qui crée des difficultés, parce qu'il y a une partie de la population qui pense que pourquoi on a tout d'un coup de l'argent pour ça et pas pour restaurer la piscine dans la commune. Il y a un besoin de t'expliquer. On a une polémique autour de ces choses, vous les voyez aussi dans les résultats des élections. Mais moi, je suis persuadé, c'est peut-être pour le débat après, je ne veux pas aller trop loin là-dedans. Je pense qu'il est un raccourci historique de dire que la montée d'un parti d'extrême droite en Allemagne est liée exclusivement à la question d'immigration ou de demandeurs d'asile. Il y a beaucoup plus de sujets là derrière. C'est en partie peut-être un point de départ, un point sur lequel ça s'accroche. Mais ce parti a commencé comme un parti anti-euro. Après, c'était un parti anti-accueil. Après, c'était un parti anti-intégration. Aujourd'hui, c'est un parti anti-islam. Et ça devient un parti xénophobe et antisémite. Donc, l'histoire et le fonctionnement de ça est, à première vue, lié. Il y a certainement aussi quelques liens à cette question d'accueil, mais c'est un phénomène beaucoup plus complexe qu'on ne peut pas réduire à cette seule question, mais qui est évidemment un défi majeur pour la politique allemande d'aujourd'hui. Bon, je m'arrête là pour
oui.
le moment. Merci.
Un grand merci. Un grand merci. Comme ça, je passe la parole à Monsieur le Préfet, désolé, du Larsen, et je vous passe le micro également pour qu'on revienne sur l'action de la France aussi, sur ce sur quoi est revenu Monsieur l'ambassadeur, sur les raccourcis peut-être, sur les dépenses aussi. Enfin, voilà, c'est à vous, Monsieur le Préfet.
Bien, bonsoir à tous. Merci de me donner l'occasion de d'un échange et d'une présentation sur cette question éminemment centrale de ce siècle. Alors, je suis tombé dans ces politiques de cohésion sociale très jeune fonctionnaire, et en particulier, je vois un élu de l'Alsace avec lequel nous avons travaillé il y a 25 ans dans les contrats de ville où j'étais jeune sous-préfet chargé de la politique de la ville, monsieur le ministre. Donc, c'est un peu un tournant de ma carrière, mais c'est aussi, vous ne l'avez pas signalé, je suis un peu un cas dans la haute fonction publique, parce que je suis un scientifique, je suis un biologiste, un généticien moléculaire.
Et je ne savais même pas.
C'est pas grave. Et donc, j'ai travaillé sur la régulation du génome et à Strasbourg. Et vous avez rappelé l'histoire, monsieur l'ambassadeur, j'irai plus loin, l'homme de Néandertal, en Allemagne, on pensait, quand j'étais jeune étudiant, qu'il n'était pas possible qu'il se soit mélangé avec Homo sapiens. En réalité, donc, on sait aujourd'hui que nous avons 4% de nos gènes qui sont des gènes de Néandertal. Et j'ai à peu près au moment où j'ai pris cette mission, que m'a confié le président de la République et le gouvernement, je suis allé rencontrer le directeur général de l'Institut de la recherche archéologique. Et donc, une exposition que je fais tourner dans la France qui présente 30 000 ans de migration sur le territoire de notre beau pays. Donc, effectivement, ces questions sont à mettre dans beaucoup d'autres perspectives que les raccourcis que l'on veut bien y faire aujourd'hui. Et c'est un enjeu du XXe siècle comme la transition écologique. Enfin, c'est un enjeu, un défi majeur. Je le dis souvent, c'est pour moi, à mon sens, le premier défi, le défi conjoint qu'ont les hommes à régler au XXIe siècle. 15% de l'humanité va migrer au XXIe siècle, qu'on le veuille ou non. Quand j'étais enfant, donc, on était à moins de 2 milliards d'êtres humains. On connaît tous ces projections du XXIe siècle. Là aussi, beaucoup de contre-vérités. L'essentiel de ces migrations sont des migrations régionales. Donc tout l'enjeu géopolitique, c'est de travailler sur la stabilisation des sous-continents et des régions. Bien évidemment, les fantasmes sont importants, mais encore une fois, sur un sujet de peur, et c'est un enjeu démocratique majeur. Je pense qu'on peut basculer sur ces questions-là si nous n'arrivons pas à les traiter et en parler suffisamment simplement, avec énormément de pédagogie, ce à quoi j'essaie de faire depuis 2 ans. Alors, c'est vrai que la France, sur ces questions d'intégration, n'avait pas, ces dernières années, été à la hauteur de la situation. On a, avec l'arrivée du président Macron, eu un nouveau discours, un discours de refondation de cette politique d'intégration, pour aussi crédibiliser l'action publique. Vous l'avez rappelé, monsieur l'ambassadeur, ce qui fonde nos États modernes, c'est l'État de droit. Donc si nous ne sommes pas capables d'assurer que les règles sont respectées, que les gens à qui on ne donne pas l'autorisation de rester restent. Si on ne permet pas à ceux qui sont autorisés à rester, à qui on donne une protection internationale, de pouvoir vivre dignement dans notre pays et construire leur parcours, parce que l'intégration, on sait au niveau des définitions posées par l'Union européenne depuis des années, un parcours, c'est un processus. Donc si on ne donne pas les moyens pour réussir ce parcours, nous allons au-devant de grandes difficultés. Donc en 2017, dans un de ses premiers grands discours à Orléans, en juillet 2017, le président a posé les bases d'une refondation de cette politique d'intégration. Alors, l'objectif aussi, c'est de sortir aussi de la confusion. On parle beaucoup de choses. On confond les statuts, les migrants, les réfugiés, les demandeurs d'asile. Enfin, tout ça, c'est une sorte de magma dans lequel qui sont aussi la source d'exploitation de cette question, de ce mélange. Donc en France, nous avons 250 000 bénéficiaires de la protection internationale, dont 120 000 pour les trois dernières années. C'est en tendance, donc le double de la décennie 2000. Donc ça montre encore une fois l'ambition de ce pays à accueillir. Et aussi un changement d'échelle sur une forme que la France avait peu développée, qui est ce qu'on appelle la réinstallation. C'est l'engagement donc, vis-à-vis de l'Organisation des Nations Unies de prendre, d'accueillir des ménages particulièrement vulnérables. Donc le président Hollande s'est engagé pour 3 000 Syriens et le président Macron s'est engagé pour 10 000 personnes, 7 000 Syriens, 3 000 Subsahariens, à accueillir d'ici fin octobre et aujourd'hui fin de l'année. Donc je peux vous donner les chiffres. De la fin du mois d'octobre. Donc, nous sommes à 9 320 personnes accueillies et nous atteindrons fin décembre les 10 000 personnes accueillies. Je fais tous les mois une note de reporting au président de la République sur cette question parce que c'est un sujet qu'il suit personnellement. Donc, il souhaitait qu'on tienne des objectifs, nous les tiendrons donc, et la France prendra de nouveaux engagements. Je laisse le gouvernement s'exprimer sur le sujet dans les prochaines semaines. Et nous aurons en décembre, dans quelques semaines, le Forum mondial des réfugiés. Ce sera aussi l'occasion de continuer à approfondir l'engagement de la France. C'est d'autant plus important par rapport à l'Union européenne que je pense que, si bien ce qu'a le président de la République en tête, c'est totalement lié. C'est-à-dire que nous voulons être un pays qui montre l'exemple sur cette double dimension, la dimension mondiale donc, et des engagements pris dans le cadre des Nations Unies, et puis au niveau européen, sur une bonne qualité d'intégration des personnes à qui la France accueille, donne un statut de protection internationale. Donc le président du gouvernement a confié à Denis Attaché, un parlementaire de la majorité, donc, de rédiger un rapport pour refonder cette politique d'intégration. Ce rapport s'intitule 72 mesures, donc une partie importante de ces propositions ont été reprises par le gouvernement dans un comité interministériel à l'intégration qui s'est tenu le 5 juin 2018. J'ai moi-même porté dans le comité interministériel la stratégie dédiée donc, aux personnes bénéficiaires de la protection internationale. Et je dirais que ce que j'ai proposé au gouvernement, c'est sur deux axes de changer les choses. D'une part, pour les personnes elles-mêmes. C'est-à-dire changer concrètement la vie des réfugiés dans notre pays. Alors ça peut passer sur des choses très concrètes qui peuvent paraître, pour nous qui sommes assez inclus dans notre société, assez anecdotique, ouvrir un compte bancaire, accéder aux droits, question de mobilité, sur la reconnaissance d'un permis de conduire, passer à l'étranger, sur la reconnaissance des diplômes, ça a été évoqué. Donc il y a beaucoup de... Et puis pour l'État lui-même et le ministère de l'Intérieur que je représente ce soir, aussi des choses à balayer devant sa porte sur les multiples rendez-vous en préfecture qui sont des freins importants pour un bon parcours d'intégration, alors même qu'on doit rater un cours de français pour aller au rendez-vous en préfecture. Voilà, donc je m'attelle à des choses, encore une fois, très pratiques pour les personnes elles-mêmes. Avec ce premier axe, améliorer la vie des gens, donc sur... Le français, cette thérapie, on va jusqu'à 600 heures maintenant. Donc, c'est 400, voire 600, voire plus. Donc, cette réforme, elle est en place depuis le 1er mars sur le français, sur le logement. Et là, ça m'amène aussi à dire que cette question du nouvel arrivant dans nos sociétés développées, elle se heurte à la fragilité de nos sociétés avec tous ces phénomènes et qui ont été très amplifiés depuis 2008 avec la crise de 2008, beaucoup de Français se sentent sur le bord de la route et sont inquiets sur l'avenir et ne se projettent plus. Et donc, il faut aussi qu'on soit en capacité de les rassurer. J'ai dans cette mission effectué déjà une cinquantaine de déplacements partout. Et j'ai été arrêté deux fois par des gilets jaunes en début d'année. Et effectivement, sur ambassadeur, je ne peux que dire que la situation est la même. C'est-à-dire qu'on me dit, pourquoi payer un Français à s'occuper des étrangers? Et puis, vous nous cachez les choses. Combien on dépense? Combien vous mettez sur la table? On a cherché sur Internet, sur le budget de l'État, on est allé sur le site du Parlement, on n'a pas. Pourquoi? C'est organisé. Vous nous cachez la réalité des moyens qui sont consacrés. Donc, énormément de pédagogie à faire. Dans un pays où, sur la question du logement, on a aussi été assez précurseur avec le président Chirac et j'ai contribué, Dominique de Villepin, à la création du droit au logement opposable. On a aujourd'hui 60 000 ménages qui ont une reconnaissance de priorité dans l'accès au logement en Ile-de-France. Donc ces populations nouvellement entrées percutent un tissu social particulièrement fragilisé et pour lequel on a même aussi dans Paris, vous l'avez sans doute déjà vu, des SDF qui marquent SDF français. Donc on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Voilà. Donc il faut construire des politiques publiques qui soient en capacité de répondre aux interrogations, aux peurs, aux fantasmes, et donc de répondre très concrètement par des exemples de réussite. Donc sur le logement, on essaye de s'y engager, mais pour moi, la clé, c'est l'emploi. Et ce qui change par rapport aux années d'expérience que j'ai, c'est le besoin des entreprises, c'est l'engagement des entreprises, et le besoin qu'elles ont de recruter dans un certain nombre de secteurs. Le gouvernement fera des annonces demain sur une question plus large, sur l'accès des ressortissants étrangers au marché de l'emploi en France. Mais on a, vous l'avez rappelé, on a engagé il y a deux ans une expérimentation qui s'appelle HOPE, mais on a surtout, sous l'égide de Muriel Pénicaud, lancé un plan d'investissement en compétences pour les réfugiés. 59 millions d'euros cette année, et la troisième vague est en train d'être étudiée, et ça représentera sur trois ans près de 40 000 parcours d'intégration par l'emploi, avec une dimension totalement intégrée, avec le français, avec le logement, avec les codes sociaux, la connaissance de la société française, etc. Donc, HOPE, c'est 1 000 par an. C'est-à-dire que là, avec les moyens du ministère de l'Emploi, nous passons véritablement à la vitesse supérieure sur l'intégration professionnelle. Et ça se fait, et j'y tiens beaucoup, dans les territoires. On a effectivement une vision parisienne, une vision trop centralisée. La France est un pays décentralisé et j'ai souhaité d'emblée proposer au gouvernement de négocier, de discuter avec les collectivités locales pour construire des process d'intégration au plus près des réalités et arrêter de faire ce que les gouvernements successifs ont fait sur ces questions-là, c'est-à-dire le préfet, mon collègue du département, appelant le maire d'une commune le vendredi pour lui dire que le lundi, il aurait la joie, le plaisir d'accueillir X familles sur le territoire de sa commune. Donc ça, il faut arrêter. C'est l'objectif et c'est vraiment l'ambition, c'est de construire du bottom-up avec, encore une fois, un réseau d'élus de proximité. J'ai écrit à plus de 1 000 élus il y a un an pour constituer un réseau des maires solidaires. J'ai eu 200 réponses positives. Ce réseau, je ne l'ai pas réellement animé. On a fait une lettre d'information. J'ai été invité dans certaines communes. Je suis allé à Saint-Douzir, qui est une toute petite commune de la Haute-Loire il y a quelques semaines. Et donc je souhaite, après les élections municipales, véritablement faire l'animation de ces élus. Et puis j'ai proposé au gouvernement de travailler étroitement avec les grandes villes de France. Parce que je pense que les territoires de ces grandes villes sont les territoires dans lesquels on peut avoir des potentialités d'intégration considérables. Donc, j'ai d'ores et déjà signé 10 contrats avec 10 grandes villes de France. J'ai 5 autres contrats qui vont être signés après les échéances électorales, si donc la majorité ne change pas dans les villes concernées. Mais j'ai donc signé, par exemple, avec Strasbourg, Toulouse, Nancy, avec Nantes, Rennes, Montpellier, tout ça c'est en cours et ça représente plus, j'étais hier à Bordeaux et on a, j'ai présidé avec la préfète un comité sur le contrat métropolitain, j'ai rencontré le maire de Bordeaux. On a plus de 70 actions qui ont été, dans le cadre du contrat territorial de l'État, engagées et qui sont en cours. Donc si je cumule, je suis à peu près à 400 actions très concrètes qui sont sur tous les thèmes, hein, le logement, l'emploi, l'accès à la santé, la culture, la pratique du sport, la citoyenneté. Donc tout ça, c'est en work in progress, quoi. Donc je ne peux pas dire aujourd'hui si ça va marcher complètement, mais en tous les cas, il y a une dynamique et j'ai été très bien accueilli par les grandes villes sur l'ambition. Alors, on a une difficulté sur la gouvernance de l'Île-de-France et par rapport à toutes les autres métropoles qui ont des gouvernances intégrées et je me heurte avec le collègue préfet de région Île-de-France, mais j'ai l'ambition avec lui et avec l'ensemble des acteurs de débloquer, je dirais, et d'aller vers une contractualisation sur ces questions, sur la capitale et sur les communes, les grandes villes limitrophes de Paris. Donc tout ça, c'est vraiment pour moi la proximité. Créer une communauté d'acteurs, ça a été dit par l'ambassadeur, je crois que c'est extrêmement important que les gens se sentent partie prenante d'une communauté d'acteurs. Et tout particulièrement, j'ai un axe de mobilisation de la jeunesse, parce que je crois encore une fois que pour les changements de regard, il faut travailler avec les générations à venir. Donc j'ai proposé au gouvernement de lancer un grand programme national de service civique, donc avec 2000 missions de service civique, pour 500 jeunes réfugiés d'un côté et 1500 jeunes français essentiellement. Il peut y avoir d'autres nationalités qui ont le droit de pouvoir faire une mission de service civique en France. Et donc, je suis actuellement sur un objectif de 500. Je serai à la fin de l'année à peu près à 360 missions. Et je réunirai tous ces jeunes à la Cité de l'Histoire de l'Immigration le 18 décembre, en présence du secrétaire d'État à la Jeunesse et, je l'espère, du ministre de l'Intérieur, pour montrer très concrètement comment ces jeunes, qu'est-ce qu'ils nous apportent à la société française. Et je pense donc que si je fais ça d'une manière récurrente sur plusieurs années, on aura un levier de transformation aussi des regards. Donc ces 500 jeunes par an, ils seront dans une médiathèque, dans une maison de retraite, partout, mais pas dans des missions liées à l'intégration. Donc, c'est le cas des 1500 autres missions qui sont proposées, qui là sont pour accompagner des collectivités, des ONG à organiser mieux l'accès. Donc, et le dernier axe sur lequel j'essaye de travailler, c'est comment parler autrement des migrations. Et là, je vois au niveau de notre pays une très grande différence entre le niveau des médias locaux. À Bordeaux, j'avais une dizaine, il y a eu un point de presse, la préfecture a organisé un point de presse, on avait une dizaine de journalistes, France 3, et tout ça est présenté et relayé ensuite d'une manière positive. Alors que les débats nationaux sont totalement hystérisés, comme vous l'avez dit. Je pense que c'est le mot qui convient. Parce qu'on ne peut plus parler avec la raison, on est ailleurs. Et donc, tout l'engagement citoyen, tout l'engagement des élus, et à chaque fois je reviens avec la pêche de ces déplacements, notamment dans les territoires ruraux, parce que c'est un pays qui a énormément des dizaines de milliers de petites communes, et dans lesquelles les maires me disent « Moi, j'y vais, monsieur le préfet, on y va, et j'ai envie d'y aller, parce que j'ai un engagement, je crois à la République, c'est important pour notre pays. » Et puis aussi, parce qu'il a des besoins, un maire rural, il a besoin de maintenir une école, il a besoin d'emploi dans l'agriculture, il a besoin de tas de choses. Et j'ai un réseau, encore une fois, d'élus en proximité qui sont partants. Donc voilà, je vais m'arrêter en vous invitant, je vous ai ramené à... Parce qu'il faut communiquer, hein, c'est l'ère de la guerre dans notre société. Je réunis donc pour la deuxième fois la communauté des acteurs de l'intégration en France le 25 novembre prochain. Ça sera l'occasion de, pour moi, un de mes projets phares que je n'ai pas évoqué jusqu'à présent, c'est le numérique. Donc, l'État va pour la première fois, et j'ai été lauréat d'un appel à projet interministériel l'année dernière, donc avec des financements importants, nous allons lancer la plateforme numérique réfugié.info qui sera accessible en 10 langues. J'ai monté un partenariat avec l'INALCO, qui est une grande école de langues. Le cursus de traduction sera un cursus qui sera validé pour les études, pour les étudiants qui souhaitent participer à ces modules de traduction. Et puis les professeurs de l'INALCO s'engagent donc à certifier, puisque c'est un contenu, je dois assurer aussi une sécurité de la traduction qui est opérée sur cette plateforme. Donc ça démarrera en 4 langues le 25 novembre. Et à partir du printemps, je pense mars, avril, vous aurez une application sur mobile. Donc tout ça sera en open source, comme les professionnels du numérique le disent. Donc ça sera une plateforme de type Wikipédia. C'est-à-dire que vous aurez la possibilité, d'abord vous vous identifierez, vous dites je suis réfugié à Nancy, j'ai entre 18 et 25 ans, je voudrais pratiquer le foot, je voudrais trouver un cours de français, j'ai un problème de logement, je voudrais créer une entreprise, j'ai envie de créer un restaurant. Vous aurez la mise en relation avec les acteurs de proximité. J'ai discuté tout ça avec les collectivités locales, les contrats dont je vous parlais tout à l'heure avec les métropoles, de manière à ce que tout ça soit complètement local. Et ça vous sera accessible simplement. Ça aussi aidera un travailleur social. Il y aura des petites vidéos, je vous donne aussi un cas très concret. La plupart du temps, un travailleur social va accompagner un réfugié chez un médecin, problème de la langue, et donc on ne va pas être en capacité d'expliquer c'est quoi l'examen médical que la personne va devoir passer. Échographie, prise de sang. Donc vous aurez des tutoriels aussi. Et donc on va avoir vraiment une application, je pense, assez du 21e siècle, qui va permettre de... Parce que comme le réfugié, on ne peut pas lui imposer de s'inscrire sur la plateforme, donc il faut qu'il y trouve un intérêt. Et il faut aussi que l'environnement y trouve un intérêt. Donc voilà. Donc je vous invite le 25 novembre à participer à cet événement pour ceux qui le souhaitent ou à suivre l'actualité de la délégation. Vous l'avez vu, je suis quelqu'un de passionné sur ces questions parce que je crois encore une fois que j'ai choisi le service de l'État parce que je pense que ces questions sont des questions profondément qui nous concernent tous et pour lesquelles on peut être meilleur, on doit être meilleur. Et si nous ne dépensons pas autant que les Allemands, je n'ai pas d'agrégat à donner, mais je pense qu'au prorata, depuis 2 ans, sous la volonté et l'impulsion du président de la République, les moyens publics par réfugié en France atteignent des chiffres tout à fait significatifs. Et j'espère en tous les cas que ça contribuera à un effet de levier qui sera le levier de transformation de l'action publique. Merci.
Merci, monsieur le préfet. Oui, en effet, moi, je ne me permettais pas de faire ce comparatif de dépenses, parce qu'il paraît en effet un peu mineur pour la France, puisque monsieur l'ambassadeur parlait de milliards. Mais je me tourne vers Corinne Thor, à qui je voudrais donner la parole. On parlait de jeunes, de services civiques. Justement, revenons sur votre action à Médecins sans frontières et au plus près du terrain, si je puis dire.
Oui, merci. Nous allons effectivement parler un peu terrain. Et pas de politique, si vous me l'accordez. J'entends un discours qui est très intéressant, qui est assez passionnant, mais quelque part ça ne doit pas marcher, puisque effectivement une ONG comme MSF est obligée de s'engager en France. Nous n'avons pas du tout l'habitude de travailler en France, il n'y a aucune raison de travailler en France, vous l'avez très bien dit tous, c'est un pays magnifique. C'est un pays où, normalement, nous avons accès aux soins facilement. Oui, permettez-moi de le dire, parce que nous sommes en grand débat, Monsieur Régnier, vous le savez très bien, sur la diminution de l'accès aux soins pour l'AME, la PUMA, etc. Donc, en tout cas, la France est effectivement un pays d'accueil, devrait être un pays d'accueil. Je pense que c'est un pays d'accueil, mais il y a des dysfonctionnements que je vais me permettre de donner. et qui explique en partie pour quelle raison MSF s'est engagé en France. Donc, nous avons été obligés de nous engager en France, en particulier sur la CMU, puisque nous sommes à l'origine de la CMU aussi avec d'autres acteurs. Mais nous avons surtout été obligés de réintervenir en France avec la situation à Calais, la jungle, 8500 personnes dans des conditions de grande précarité, où nous avons construit le camp de Grande Synthe et pas l'État. C'est déjà une première question à se poser, pourquoi ce n'est pas l'État qui a construit un camp. Donc c'est MSF qui a financé un camp qui a coûté 2,5 millions de fonds propres à MSF pour essayer de mettre à l'abri dans des conditions un petit peu plus raisonnables, un peu plus pérennes, des personnes qui étaient dans une grande précarité. Lorsqu'il y a eu le démantèlement de Calais, Grande Synthe et du camp de Stalingrad, 3500 personnes à Stalingrad, et qu'il y a eu la création des CAO, là je rejoins M. Régnier qui donnait un exemple tout à l'heure en disant on a envoyé du jour au lendemain, 48 heures avant que ces personnes arrivent dans des petites villes, des migrants, et ça a déjà créé un stigma de peur. Du 48 heures à l'avance. Je ne sais pas si vous m'entendez bien avec ce micro, mais ça, oui. Il faut que je parle plus haut. D'accord. Ça a créé vraiment un climat de défiance. C'était extrêmement. Ça pouvait être pénalisant pour des petits villages, pour des petits maires de communes. Et puis finalement, avec le recul, on se rend compte que ça se passe très bien. Et ça se passe très bien, pourquoi ? Parce qu'il y a une société civile qui travaille, qui œuvre, il y a des bénévoles, d'associations. Et là encore, je rejoins le discours qui est de dire il faut que nous travaillions tous ensemble et c'est extrêmement important que l'État, la société civile, les associations travaillent ensemble. Encore faudrait-il être d'accord sur les termes du travail collaboratif. Moi, je voudrais parler terrain. Pour une raison précise, c'est que la réalité aujourd'hui en France, vous le voyez chaque jour, hein, c'est 3500 personnes dehors à Paris, vous avez nommé tout à l'heure les maires, alors je les ai principalement notés parce que c'est principalement les communes où je me suis rendue, Bordeaux, Nantes, Montpellier, Toulouse, où il y a énormément de personnes qui sont à la rue, parce que nous en sommes... rendu à un point où on sort effectivement des centres d'hébergement d'urgence des personnes qui sont dans ces centres d'hébergement d'urgence depuis longtemps, on les remet à la rue, ce sont des réfugiés statutaires. On sort de ces hébergements d'urgence des personnes qui sont déboutées du droit d'asile et dublinées. Il y en a beaucoup en France puisque les dublinés, finalement, ils sont tous passés par l'Italie ou par l'Espagne ou par la Grèce. Et on se retrouve dans une situation où finalement ces personnes sont supposées demander l'asile dans ces pays d'origine. Et là, j'ai juste envie de parler un petit peu du règlement Dublin, où il serait peut-être temps effectivement que vous arriviez à trouver un accord sur le règlement Dublin et à faire en sorte que chaque pays en Europe fasse sa part. Excusez-moi, j'ai un discours très volontairement un peu pushy, je suis quelqu'un de terrain. J'ai travaillé pendant des années à l'étranger dans des camps de réfugiés où j'ai vu une grande misère. Et je peux vous dire que ma mission la plus difficile, c'est de travailler en France. Dans mon pays d'origine, je suis française, je suis humanitaire et je suis affligée de voir ce que je vois parfois en termes de situation de grande précarité, en termes de décisions qui se prennent, alors que je suis intimement convaincue que nous pourrions faire différemment. Si nous cessions parfois de criminaliser les ONG. Je suis aussi responsable du bateau Ocean Viking qui est basé à Marseille. Je n'étais pas à l'origine de l'Aquarius, mais l'Aquarius a été arrêté parce que nous avons, l'Europe, criminalisé les ONG en termes d'opérations de sauvetage et de secours en mer Méditerranée, alors que nous y étions parce que, justement, il n'y avait pas assez de sauvetage et de secours en mer Méditerranée. Merci Frontex, merci l'Europe. La deuxième chose, nous étions en Grèce, nous sommes en Grèce, nous sommes en Libye. Et aujourd'hui, l'Europe renvoie, la France ferme ses frontières intérieures et nous préférons renvoyer des migrants en Libye, alors que tout le monde sait qu'il y a des actes de torture, de kidnapping et de violence extrêmes sur l'ensemble de la population qui est en Libye. C'est ça l'Europe, c'est ça la France aujourd'hui, excusez-moi de vous le dire de cette manière-là. Nous préférons externaliser nos frontières, nous préférons réduire l'accès aux soins, c'est le débat qui va avoir lieu demain, mais bon, tout a déjà transpiré. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous sollicités par les médias, parce que là, c'est un scoop. Et là aussi, je rejoins Monsieur le Préfet en disant que le niveau des médias, parfois, est quand même vraiment très bas. En termes de compréhension des sujets, on veut toujours en faire un scoop, et malheureusement, le fond n'est pas réellement traité. Je voudrais rappeler aussi qu'en France, entre les démantèlements, les expulsions, parce qu'il n'y a pas assez d'hébergement, nous remettons tout de même à la rue des personnes, et c'est la raison aussi pour laquelle nous créons un climat de peur avec des personnes qui sont toujours dehors, et le Français lambda, qui n'est pas dans une situation de compréhension puisqu'il ne lit pas les journaux ou ne sait pas de creuser, a le sentiment que nous sommes envahis. Nous ne le sommes pas, nous avons effectivement plus 22% par rapport en 2018 par rapport en 2017. Les 22%, dans ces 22%, il y a un grand nombre de personnes dublinées. Alors, la complexité, c'est effectivement d'essayer de trouver des accords pour renvoyer les personnes qui ne sont pas éligibles à l'asile. Je ne suis pas là pour faire de la politique intérieure, pas du tout. Si l'État français a décidé de ne pas avoir de migrants économiques, c'est le choix, c'est la politique intérieure. On doit respecter ces décisions gouvernementales. En revanche, je suis là en tant qu'humanitaire et de rappeler qu'il est absolument inconcevable de laisser des personnes à la rue, inconcevable de refuser de leur donner accès aux soins, sous prétexte qu'ils coûtent. Je rappelle que les populations migrantes qui sont à la rue aujourd'hui ont un mal fou. Parfois, à avoir un rendez-vous pour demander l'asile, puisqu'il faut appeler la plateforme téléphonique. Et je peux vous dire que chez nous, nous le faisons tous les jours et qu'au bout de 50 coups de fil, je n'arrive toujours pas à avoir un rendez-vous pour nos jeunes, qui sont aussi potentiellement des demandeurs d'asile. Donc, difficulté de cet ordre-là, je pense que ce serait bien d'essayer de voir comment ceci pourrait être amélioré. Ça éviterait d'avoir une population à Paris qui reste pendant un mois dehors parce qu'elle n'arrive pas à obtenir un rendez-vous. On réglerait déjà un problème de base au niveau des primo arrivants. Je pense aussi qu'il y a effectivement un manque grave de structures d'hébergement et que peut-être que de remettre tout le monde dehors, en tout cas ceux qui ne sont pas éligibles, ce n'est pas que la bonne solution. Puisque nous mettons effectivement un certain nombre de milliers de personnes dehors, partout en France. Bordeaux en a été un exemplaire flagrant, puisque vous parliez tout à l'heure de Madame la préfète, qui est l'ancienne préfète de Calais, qui est donc à Bordeaux maintenant. Et cet été, c'est 850 personnes qui se sont retrouvées à la rue avec des familles et des enfants. À Paris en ce moment, ce sont des familles et des bébés qui sont à la rue. Est-ce qu'on trouve ça concevable? Personnellement, sur un plan humanitaire, je ne le pense pas. Et je pense qu'il est extrêmement important d'essayer de trouver des consensus pour faire en sorte que ces problèmes-là se règlent. Excusez-moi, je continue jusqu'au bout mon propos, même si je pense que ça doit agacer. Je voudrais rajouter aussi que Aurélien Taché, nous l'avons rencontré plusieurs fois, et effectivement, c'est extrêmement intéressant, toutes les mesures qui sont prises. Je vous ai entendu dire que vous vouliez changer la vie des réfugiés. La première chose, peut-être, là, vous parlez des réfugiés qui ont le statut de réfugiés. Comment pouvez-vous tenter d'essayer de trouver des solutions pour ceux qui n'ont pas le statut de réfugiés? Il y en a beaucoup, je vous l'accorde. Comment peut-on régler ce problème? D'accord, de retour dans les pays sûrs, aujourd'hui, nous renvoyons, est-ce que vous considérez que l'Afghanistan est un pays sûr? Je crois qu'il y a quelques renvois en Afghanistan, et je peux vous donner un exemple concret, qui est un patient que nous avons suivi. Donc ça veut dire que parfois on peut se tromper en France sur certains renvois. Je ne suis pas certaine que l'Afghanistan soit effectivement un pays sûr. Les services civiques, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a énormément d'associations qui souhaitent travailler avec des services civiques et qui n'arrivent pas à obtenir des services civiques. Je ne sais pas s'il y a des quotas de services civiques. En tout cas, c'est une façon pour les associations de travailler avec très peu de moyens et d'essayer d'aider. Ces associations ont besoin de services civiques pour éventuellement aider les départements à essayer de prendre en charge de manière plus raisonnable, plus convenable, toutes ces personnes qui sont à la rue. Je voudrais aussi rappeler le délit de solidarité, qui n'en est plus un, mais qui, sur le terrain, continue de perdurer. Il y a des solidaires qui sont accusés de faire des passages de frontières, tout simplement parce qu'ils sont à Briançon, ou à Menton, ou à Hendaye, qu'il y a des cas de cet ordre-là qui ne mériteraient absolument pas de se retrouver devant un tribunal. Je voudrais rappeler aussi qu'il y a une pression sur les maires, certains maires qui souhaitent ouvrir des lieux d'hébergement et qui n'y arrivent pas parce que les préfets s'y opposent. Je voudrais aussi rappeler que tout est fait aujourd'hui par rapport aux mineurs non accompagnés dont MSF s'occupe en particulier, qu'il y a effectivement, comme par hasard, un ratio et des vases communicants. Je dirais que s'il y a réellement une population qui augmente, ces quatre dernières années, ce sont l'arrivée des mineurs. Plus les mineurs augmentent en termes d'entrée, plus la reconnaissance de minorité diminue. MSF a ouvert un programme pour essayer de démontrer que lorsque l'on veut réellement mettre les moyens pour essayer d'accompagner ces mineurs qui se déclarent mineurs, et peu importe qu'ils soient mineurs ou pas, ils ont droit à une protection, ils ont droit à être évalués de manière correcte. À partir du moment où on leur donne accès à leurs droits, qu'on leur donne accès aux soins, qu'on leur donne accès à la santé mentale, qu'on leur donne accès à un suivi social, à partir du moment où on fait ce travail sérieusement, eh bien ces mineurs sont bien reconnus mineurs. Je vous invite à lire le rapport que nous avons édité en septembre.
Et que j'ai oublié de citer, hein. Désolé, le voici, les mineurs non accompagnés, symbole d'une politique maltraitante, donc de la mission France de MSF sortie en cette rentrée.
Ces mineurs, sur toute la cohorte que nous avons gérée pendant un an, 57,7% ont bien été reconnus mineurs. C'est-à-dire qu'ils avaient été non reconnus mineurs, au terme d'une évaluation rapide, succincte, parfois complexe, je l'accorde. Personnellement, je n'irai jamais faire une évaluation sur la minorité. C'est extrêmement compliqué. Nous savons tous que les tests osseux ont des marges d'erreur de 18 mois. Et quand cela arrange, il est demandé systématiquement des tests osseux sur une population plutôt africaine, qui a l'habitude de travailler depuis l'âge de 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Les tests osseux sont issus d'un travail qui a été élaboré en 1940 sur une population américaine qui n'a strictement rien à voir avec la population que nous avons aujourd'hui, qui n'évolue pas de la même façon. Donc les tests osseux, tout le corps médical le dit, sont absolument inutilisables dans ce genre d'évaluation de la minorité, et pourtant c'est le cas. Donc, juste pour rappeler que sur 40 000 mineurs qui sont arrivés en 2018, comparativement effectivement à 2016 où ils étaient plutôt 12 000, seuls 17 000 ont été reconnus mineurs, et on se demande tous où sont passés les autres. Donc MSF s'est axé sur cette population-là, en ouvrant un centre de jour à Pantin. Le maire de Pantin, qui est un maire bienveillant, ne nous aime pas beaucoup. Un maire socialiste, je fais de la politique pour le coup, ne nous a pas du tout aimé lorsque nous avons ouvert ce programme, parce que, encore une fois, la peur du migrant, la peur de la file d'attente, la peur de tout ce schéma que l'on se fait. Nous n'avons jamais créé aucune file d'attente, nous sommes intégrés dans la ville, nous participons à la vie économique de la ville. Nous avons des bénévoles qui sont des habitants de Pantin. Ça se passe extrêmement bien. Mais effectivement, ça coûte. Ce programme-là coûte 1 million d'euros par an. Pour 1 million d'euros par an, nous avons pris en charge 1600 mineurs. Mais nous l'avons fait de manière très forte, avec énormément de ressources humaines, avec beaucoup d'énergie, parce que l'on tente de démontrer que l'État, sur ce sujet-là, a un problème, puisqu'un mineur qui est supposé faire un recours devrait être protégé. C'est la responsabilité de l'État. Ce n'est pas la responsabilité d'une ONG comme MSF. Et donc nous tentons de démontrer, en termes de plaidoyer, et je prendrai rendez-vous avec M. Régnier s'il accepte de me recevoir.
La porte est toujours ouverte.
Je vous remercie.
C'est un oui.
Il m'a dit oui. De faire en sorte d'améliorer tout ça. Il ne s'agit pas de critiquer pour critiquer, il s'agit de démontrer que cela est possible. Mais dans ce cadre-là, nous avons accès à une population qui est finalement ni mineure ni majeure, puisqu'elle n'est ni reconnue mineure, ni reconnue adulte, puisqu'elle n'est pas dans les dispositifs pour adultes. Et donc, j'ai reconnu quelqu'un qui est rentré dans la salle tout à l'heure, monsieur le directeur de l'asile, au sein du ministère de l'Intérieur, que j'ai alerté sur le sujet, puisque nous avons des demandeurs d'asile auprès de ces mineurs qui ne peuvent pas accéder à l'asile, puisque justement, il y a un énorme problème. Officiellement, ils ne sont pas mineurs, et pourtant, dans ce cadre-là, ils ont besoin d'avoir un représentant, un administrateur ad hoc, un référent. Or, ils n'y ont pas accès, puisqu'officiellement, ils ne sont pas déclarés mineurs. Donc, c'est un parcours kafkaïen extrêmement complexe qui fait que ces jeunes n'accèdent ni à la santé, ni à leurs droits, alors qu'ils devraient pouvoir le faire. Donc, c'est un peu le programme d'MSF, même si j'ai commencé par un discours un peu malgré tout un peu politique fort, en rappelant que, malheureusement, dans la rue, il y a du monde. Il y a des gens qui peuvent d'ailleurs créer des problèmes de santé publique puisqu'ils n'accèdent pas aux soins, que ces personnes sont à la rue et qu'il serait temps de réviser sa copie en termes qui a accès aux soins, qui n'a pas accès aux soins, mais ça, nous répondrons aux parlementaires probablement demain. Il y a effectivement un problème sur des personnes qui ne sont pas supposées rester sur le territoire. Là, c'est un vrai problème politique. Je ne sais pas comment vous allez le régler, mais en attendant, nous laissons ces personnes à la rue et cela pose un problème de fond, puisque finalement, du coup, tout le monde a peur de ces gens-là. Il y a un problème d'hygiène, il y a un problème potentiel de santé publique, encore une fois. Et puis surtout, il y a un problème assez inacceptable de laisser des femmes et des enfants dehors. Donc j'avais juste envie de vous titiller un peu sur le sujet pour voir comment nous pourrions tous ensemble essayer de trouver des solutions à ces problèmes-là, pas que l'État, mais avec l'aide de tout le monde, et pas uniquement avec une politique. Quand j'entends parler de politique d'accueil, j'ai envie de vous dire, écoutez, je suis navrée de contester ce sujet-là en vous disant que je trouve qu'actuellement en France, nous ne sommes pas réellement en politique d'intégration et une politique d'accueil au sens propre du terme, tel que le droit humanitaire le rappellerait chaque jour. Merci.
Merci beaucoup, Corinne. Alors, je vais vite donner... je n'ai pas pris mon micro, mais c'est parce que c'était aussi pour vous dire que vous n'avez pas de micro, parce qu'on a un problème technique, mais qu'il y a une bonne acoustique dans la salle, et donc j'ouvre le bal des questions. Et j'aimerais bien en prendre plusieurs, parce qu'on a beaucoup parlé. Ah oui, alors quand je parle, on peut pas... est-ce qu'il y aurait une première question? C'est toujours le plus délicat dans la salle. Ah, très bien, monsieur.
Bonjour, ma question s'en prie au monsieur le préfet à Régnier. Vous parliez tout à l'heure de régionalisation, intégration de collectivités territoriales et locales. D'une certaine manière, ce n'est pas non plus une forme, c'est une question, je n'ai pas d'art français, une forme de désengagement de la part de l'État, notamment en termes de compétences et aussi financières.
Nous, on est un peu privilégiés.
Alors, je dirais non, au contraire, puisque les actions qui sont financées dans le cadre de ces contrats métropolitains sont financées à 100% par l'État. Donc, je ne mobilise pas des ce que j'ai, dans une discussion, j'ai proposé aux collectivités qu'elles recrutent des chargés de mission transverses qui mobilisent l'ensemble des directions des grandes villes et des métropoles pour créer une véritable politique avec un point d'entrée défini. Et donc, dans 6 cas sur 10, ces métropoles ont accepté et l'État finance 80% du poste de travail. Donc, j'ai eu 3 millions sur le budget 2019. J'en aurai 5 pour poursuivre cette contractualisation. Et par ailleurs, sur les crédits qu'ont les préfets, d'une manière très concrète à leurs mains, ils ont doublé. Ça sera 27 millions en 2020. Et c'était moins de 10 millions en 2015-2016. Donc, au-delà des réfugiés, il y a toute une contractualisation qui est en cours aussi avec les collègues sur les autres primo-arrivants. C'est une politique plus globale. Et donc, moi, je pense que dans un État décentralisé, c'est une compétence de l'État. Mais s'il n'y a pas, et encore une fois, les élus locaux ont très bien compris le sens de la proposition que je leur ai faite, c'est de dire c'est ensemble qu'on résoudra ces questions. Et donc, effectivement, c'est à l'État de montrer l'exemple déjà en finançant ces actions, ce qu'il fait. Et après, il y a des actions complémentaires que les collectivités veulent porter. Dans les questions qui vont au-delà des statuts, les collectivités portent des actions sur les demandeurs d'asile, voire sur des personnes sans droit, au regard du droit du séjour, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que les personnes ne sont pas sans droit. Mais... Donc, il y a tout un ensemble d'actions. Moi, je travaille sur une intersection. Et si j'essaye aussi de promouvoir cette contractualisation, c'est... sur des sujets éminemment difficiles que sont ces campements, ces squats, ces bidonvilles, de travailler ensuite à une stratégie plus globale. Voilà. Je ne l'ai pas évoqué dans mon introduction, mais je pense que la question des grandes villes, mais les grandes villes au niveau mondial, en 2050, quand vous aurez plusieurs dizaines de mégapoles qui auront plus de 30 millions d'habitants, dont on sait qu'une partie, un tiers de la population sera des gens qui vivront dans des bidonvilles ou des favelas, et que ce seront vraisemblablement des populations étrangères, je pense qu'on a un défi majeur et que les villes, enfin c'est les villes qui sont à l'origine de notre droit, de notre histoire, c'est la cité, donc c'est dans la cité qu'on doit trouver les réponses. Et un État moderne ne peut pas, même s'il a été longtemps ce pays centralisé et jacobin, ne peut pas construire de politique publique sans les territoires. Et encore plus, il faut le faire avec.
Je vais peut-être prendre plusieurs questions. Peut-être au fond, est-ce que vous pouvez vous lever, peut-être vous présenter, ce serait aussi intéressant pour nous de savoir qui prend la parole. Tout à fait derrière, je prends madame, et vous, monsieur, en rouge également. Voilà, juste après.
Bonjour. Je suis étudiante en anthropologie et je travaille sur les questions de l'accueil dans les CAO en France, notamment dans les espaces rurales. En fait, j'avais une question pour monsieur de Savary. Vis-à-vis des chiffres que vous avez lus sur le pourcentage des protections internationales en France comparé à la Grande vis-à-vis de ce qui a été dit sur le panel, en fait, je me demandais si on ne pouvait pas lire les chiffres un peu plus différemment. C'est pourquoi, en fait, il y a plus de demandes de protection internationale en Allemagne qu'en France. De ce qu'a montré. J'ai vu votre prénom, Pauline, désolé. Du fait que la difficulté aujourd'hui en France de faire la demande d'asile avec l'impossibilité d'appel, les 1 an et demi d'attente sans travail, le jour des demandes par exemple de se déplacer de Paris à Château-Double, un village de 400 habitants, du jour au lendemain, avec un bus qui vous emmène sans connaître personne, toutes ces difficultés-là qui font qu'aujourd'hui l'asile, je trouve qu'il y a une protection à trouver assez facilement, si on ne peut pas questionner ça, alors qu'en Allemagne, il y a des dispositifs qui sont mis en place qui sont déjà plus faciles. Donc, je peux répondre à d'autres demandes, en fait. Enfin, on sait beaucoup différemment l'accueil en France, du fait que les gens ne demandent pas l'accueil d'asile comme ils aimeraient le faire, qu'ils vont se diriger vers justement le regroupement familial, alors qu'ils ont vécu des choses traumatiques dans leur vie.
Merci, monsieur. Oui, je vais prendre votre question également, une troisième.
Oui, c'est une question du Val-d'Oise, mais je parlais de la diocèse de Paris. Une question, j'ai noté la différence, hein, vous disiez, monsieur l'ambassadeur, que le délai de demande d'asile en Allemagne, c'est 3 mois. En France, c'est théoriquement 6 mois, en fait, beaucoup plus long. Et le problème, c'est que Normalement, le droit de travailler aujourd'hui est ramené à 6 mois, sauf que la difficulté de trouver un emploi pour celui qui a 6 mois, d'abord la lettre qu'il reçoit en disant qu'on n'a pas eu le temps de traiter votre dossier, ne mentionne pas qu'il a le droit de travailler. Donc, et d'autre part, la difficulté pour cela, c'est de trouver un emploi parce qu'il faut une autorisation de la préfecture, c'est un galère professionnel. Or, effectivement, la solution d'emploi, c'est plus que les solutions d'intégration, d'intégration.
Très bien, merci. Je vais prendre une autre question tout de suite pour qu'on puisse. Oui, madame. Oui, il faut que vous parliez un peu fort, peut-être.
Je connaissais très bien cette salle parce que, avec le niveau d'information entre le parlementaire, nous avons organisé plusieurs colloques et ateliers pour la grande liberté. Et actuellement, je développe un projet pour soutenir les réfugiés qui va dans le sens de ce que j'ai bien écouté. Mais j'ai une question à monsieur le préfet, vous avez parlé de la plateforme. Est-ce que c'est destiné seulement pour les réfugiés ou pour les réfugiés et les communautés locales? Parce que j'imagine qu'il y a des gens ici de la diversité qui étaient des anciens réfugiés qui ont toujours les mêmes problèmes. Et est-ce que c'est financé par l'Europe aussi? Parce qu'il y a un programme qui va dans ce sens. Et madame, c'est que vous avez évoqué les difficultés sur les personnes en France et aussi avec l'Union européenne. Il y a des programmes de l'Union européenne pour destiner pour les réfugiés avec des financements à la suite de la réunion de Londres de 2007. Et ils engagent les sociétés civiles, les associations, parfois publiques. Ça demande un travail énorme. Et de démobilisation des acteurs locaux et des accords bilatéraux avec les autres pays là où il y a des réfugiés. Et quand on met un an à travailler, à faire le travail et à préparer un dossier complet, et après les fonctionnaires de l'Union européenne, leur avocat, surtout les pays montrent les Suédoises, et j'ai des preuves, qui disent qu'on ne veut pas des associations, on veut des grandes structures, et ils transmettent les idées à des grandes structures, et ils ne savent pas travailler, ils ne savent pas faire la mise en place. Moi, je trouve que c'est un problème qui empêche l'évolution des
associations. Merci, madame. On répondra aussi à votre réaction, Corinne Thor. Mais je me tourne d'abord vers monsieur Savary.
Alors, je réponds sur les deux points.
Vous avez deux questions.
Oui, hein. J'ai deux. Alors, sur la première, sur pourquoi finalement il y a plus de demandes d'asile en Allemagne qu'en France. Alors, c'est assez compliqué d'analyser les motivations des demandeurs d'asile. Pourquoi est-ce qu'ils vont se diriger plutôt vers un pays plutôt que l'autre? Il y a eu des études qui ont été faites sur ces questions. Je pense qu'en 2015-2016, il y avait clairement l'idée qu'en fait, en Allemagne, il y avait effectivement les gens étaient bienvenus, mais il y avait aussi l'existence de diaspora déjà existante. Donc ça, c'est quand même un facteur déterminant dans le choix de la destination finale. Et ça, toutes les études le montrent. Plutôt que l'analyse d'avantages, de bénéfices sociaux, etc., l'existence de relations, la présence d'un cousin, d'un ami qui a migré, d'une partie de la famille, est déterminante dans le choix du pays de destination. Donc c'était peut-être aussi le cas pour beaucoup de Syriens qui ont rejoint effectivement l'Allemagne dans ces années-là. Et également, un facteur qui est aussi déterminant, et là on a un gros problème en Europe, il faut le reconnaître, c'est la divergence entre les taux de reconnaissance pour un même pays d'origine entre les pays. Et ça, on essaie d'y remédier avec le paquet asile, mais bon, vous connaissez, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, on est bloqué sur cette question-là. Mais effectivement, ce n'est pas normal qu'on ait des taux de reconnaissance, des différences aussi énormes entre pays membres pour une même nationalité extérieure à l'Union européenne en matière de demande d'asile, parce que tout simplement, ça favorise ce qu'on appelle le shopping de l'asile, où les gens vont essayer effectivement plutôt dans les pays où le taux de reconnaissance est plus élevé. Donc ça peut être aussi un facteur. Après, je ne me prononcerai pas sur effectivement les conditions d'accueil, etc., que je connais moins, mais sur le choix de destination, je pense que ces facteurs-là rentrent en ligne de compte. Après, sur la question, sur la remarque des fonctionnaires arrogants, si je prends un exemple sur le fonds asile, migration, intégration, 90% du fonds est géré au niveau national. Donc les appels à propositions qui sont la gestion des fonds pour l'intégration du fonds Asile, Migration, Intégration, qui est le principal fonds au niveau de l'Union européenne, 90% est géré par le ministère de l'Intérieur en France, qui va lancer des appels à propositions, etc. Donc, voilà, le choix qui est fait des bénéficiaires finaux incombe à l'État membre, parce qu'on est dans le cadre, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais de la gestion partagée. Et donc, la Commission européenne donne une enveloppe à la France, qui après la gère en fonction de règles, etc. Mais alors après, peut-être ce à quoi vous faites allusion, ce sont les projets transnationaux que finance effectivement l'Union européenne. Et c'est vrai qu'on a des règles qui sont assez strictes en matière de capacité administrative à gérer les projets, de solidité financière des associations, etc. On est audité par la Cour des comptes, par nos auditeurs internes, par etc. Donc je peux vous assurer qu'on est contrôlé de tous les côtés. Et effectivement, on a des règles qui sont assez difficiles et c'est un problème d'accès à ces financements pour les petites associations. Et je pense que vous êtes peut-être dans ce cas-là, et ça, je peux que le reconnaître. Donc je ne pense pas qu'il s'agit vraiment de l'arrogance. Il s'agit plutôt de règles qui nous sont imposées par le règlement financier d'une part, etc.
Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pourriez réagir également à cette première question, hein, pas la deuxième?
Je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième, mais si je peux faire trois remarques sur l'ensemble. Premièrement, effectivement, il faut faire évoluer Dublin. Nous ne pouvons que constater que ça ne marche pas. Ça a marché avec des nombres de demandeurs d'asile très limités. Parce que là, ça ne pose pas de problème. Mais si on veut le réformer, et je pense qu'entre les gouvernements allemands et français sur la finalité, on est d'accord, il faut aussi être prêt à dire que la vraie solution est à la fin un système européen dans lequel il y a une agence européenne qui donne des titres de protection et qu'après ça, les États européens acceptent les décisions. Et les deux, les décisions où une protection est donnée et les décisions où quelqu'un est débouté, ce qui peut arriver dans ce type de procédure. Et après, il faut qu'il y ait une solidarité entre les États membres sur ceux qui ont obtenu un titre de séjour. Je comprends la difficulté à, en quelque sorte, faire une répartition des demandeurs d'asile. Parce que là, on peut dire comment ça va se passer et tout. Mais une fois qu'on a un système où le titre est donné par une institution européenne, il faut rappeler ça, que ce soit reconnu par tout le monde et que le fardeau est partagé. Sinon, on ne s'en sorte pas. Et évidemment, ça va de pair avec un travail en commun sur les frontières extérieures, ça va de pair avec sauvetage en mer, ça va de pair avec un travail avec les pays d'origine, avec un travail avec les pays de transit et tout. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les pays européens vivent des situations de réfugiés ou d'immigration différentes. Il y a des pays de premier accueil, il y a des pays de transit, il y a des pays de destination. Certains pays comme la France sont plusieurs de ces choses à la fois. Et si on n'arrive pas à arriver à une perspective commune sur les solutions, et chacun essaie de régler son problème national à travers une régulation européenne, on n'y arrivera pas. Donc il y a un vrai débat, je pense, politique nécessaire autour de ces choses, au-delà de ce qui est la négociation des textes dans les groupes de travail à Bruxelles, parce que sans un soutien public, politique, dans nos États de ce type de choses, on n'ira pas très, très loin. Sur le travail, effectivement, l'intégration dans le travail est importante. Nous voyons que la première difficulté, au moins en Allemagne, c'est la langue. C'est pour ça qu'on essaye de commencer avec ces cours de langue le plus tôt possible. Puis, des formations à dispenser. Et on dit souvent que l'Allemagne a besoin à cause de la main-d'œuvre et tout. Honnêtement, c'est pas ça. Mais il faut aussi trouver un cadre juridique dans lequel, pour les entreprises, de s'engager sur cette voie leur donne la sécurité que la personne qui forme puisse, s'il le souhaite, la garder. Si vous ne donnez pas aux entreprises cette sécurité, Mais vous leur demandez aux entreprises de former, vous n'allez pas trouver beaucoup d'entreprises qui forment. Donc il faut que pour l'entreprise, l'investissement de formation apporte au moins la possibilité de pouvoir engager quelqu'un. Bon, c'est sûr que le niveau de chômage d'un pays à l'autre peut rendre ce type de mesures plus ou moins facile. Sur les raisons pour lesquelles les gens viennent ici et là, compliqué, il y a beaucoup de raisons. On a connu, on voit les chiffres importants des Turcs aujourd'hui qui demandent l'asile en Allemagne, où effectivement la communauté turque en Allemagne est très importante. On a vu ça aussi des Balkans. Pour la Syrie, monsieur le préfet, on n'avait pas vraiment eu une communauté syrienne en Allemagne avant la guerre de Syrie, ni irakien. Donc, ce qui peut être vrai pour certaines populations ne l'est pas nécessairement pour d'autres.
Merci. Corinne Thor, est-ce que vous avez envie de réagir? Madame était revenue sur, ou alors monsieur, enfin, sur le problème des plateformes, sur l'État, les ONG, sur le travail conjoint possible ou non? Et il y avait une question pour monsieur le préfet, mais j'avais envie de donner aussi la parole à Corinne Thor, qui ne nous a pas parlé, donc j'aime bien l'équité.
Alors, je peux vous parler que de la situation en France. Effectivement, je corroborerai un peu votre propos en disant que ce sont pratiquement toujours les mêmes associations, grosses associations, qui récupèrent les subventions. Alors, est-ce que c'est le système administratif qui fait que c'est tellement compliqué, les petites associations ne s'en sortent pas? Donc ça, je pense que c'est effectivement pas facile. En revanche, il y a quand même beaucoup, beaucoup de petites associations qui œuvrent chaque jour dans les départements, justement, qui travaillent main dans la main avec d'autres. La complexité, c'est la coordination de toutes ces petites associations. Et là c'est effectivement pas facile. Tout le monde a sa propre... son éthique, c'est son engagement. Donc la coordination n'est pas simple. Moi, j'ai juste envie de dire, quand même, est-ce que ça vaut le coup de prendre des subventions si vous ne pouvez pas faire un travail de qualité? Ça, c'est une autre question que j'ouvre. Je peux me permettre de le dire, puisque MSF n'accepte aucune subvention, nous fonctionnons que sur dons privés. Donc c'est un peu facile pour moi de dire ça. Mais quand on voit par exemple que sur de l'hébergement ou l'hébergement d'urgence, les coûts sont extrêmement réduits, donc comment voulez-vous faire un suivi sérieux avec déjà le paiement de la chambre d'hôtel par exemple et un travailleur social que vous ne pouvez pas financer parce que de toute façon vous n'avez pas les moyens dans ce que vous avez pris en subvention de faire un accompagnement social. Là, il y a peut-être quelque chose à faire en termes d'efforts financiers de la part de l'État pour essayer de faire un accompagnement un peu plus pérenne.
Monsieur le préfet, je vous passe la parole parce que le temps file et madame avait une question.
Oui, je voudrais aussi répondre sur le délai de la demande d'asile. Donc elle était avant l'arrivée du président de la République autour de 20 mois. On est aujourd'hui à peu près moins d'un an. On est à moins de 6 mois sur l'OFRA et donc la différence est sur la CNDA. Le gouvernement donc a mis des moyens très importants puisqu'on a augmenté d'à peu près un tiers le nombre d'officiers de protection à l'OFRA. Donc c'est des moyens qui devraient avoir des résultats en 2020. Et sur la CNDA, les annonces qui sera faites demain, parmi les annonces qui sera faites demain, il y a la création d'une nouvelle chambre à la CNDA. Donc l'objectif est bien d'aller le temps à ce délai de 6 mois qui est nécessaire effectivement pour que les personnes ne se retrouvent pas dans des situations qui sont humainement pas acceptables dans les structures d'hébergement quand elles y sont. Je ne veux pas rentrer non plus dans des polémiques sur la question de l'emploi des demandeurs d'asile. C'est vrai qu'à la suite d'Aurélien Taché, la loi a ramené à 6 mois. C'est vrai aussi par rapport à toutes les entreprises que je rencontre que dès lors qu'il n'y a pas une visibilité très forte, ce n'est pas non plus évident pour un entrepreneur, pour un chef d'entreprise de s'engager dans un recrutement, sauf sur des besoins qui peuvent être temporaires. Mais en tous les cas, je ne peux que reconnaître avec vous que pour l'instant, ça ne marche pas. Voilà. Donc, et avec Marie Pénicaud et le ministre de l'Intérieur, on est bien conscient que nous avons des progrès à faire en la matière. Sur aussi les propos de vos propos de MSF, pour avoir aussi, c'était pas dans le parcours que vous avez indiqué, mais j'ai présidé de nombreuses associations humanitaires et donc je suis aussi un citoyen engagé. Je pense que si on reste chacun dans des postures, oui, il y a des points sur lesquels on va être en désaccord, mais essayons de partir, si on partait à l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire que la plupart du temps, moi je suis assez capable de vous écrire le communiqué de fin de réunion avant que la réunion n'ait eu lieu. Donc, si on changeait le process et qu'on soit un petit peu plus anglo-saxon sur une démarche plus pragmatique, c'est de partir au début de la réunion sur tout ce qui fait commun. Et d'arriver après à ce qui ne fait plus commun, et après ce qui relève de choix, qui relève de choix politiques, de choix techniques, de choix budgétaires, mais d'essayer de faire l'inverse de ce qu'on fait depuis que je travaille dans la sphère publique, c'est-à-dire d'être dans des... On ne peut pas rapprocher dès lors qu'on n'essaie pas de savoir si on a des intersections, et partir de ces intersections pour être plus intelligent ensemble. Donc sur les outils numériques que j'essaie de développer, encore une fois, pour répondre à votre question, ce sont des outils qui seront totalement ouverts et accessibles et qui seront, dont chaque brique qui sera apportée par un porteur de projet ou qui a quelque chose à proposer, restera propriétaire de son dispositif, de son information, et donc par conséquent, ce sera quelque chose qui sera très ouvert en termes de fonctionnement, enfin du moins, je l'espère. Et j'aimerais vraiment qu'on arrive, je sais que ce n'est pas... Enfin, si on a des sujets aussi compliqués j'essaye de construire des ponts et pas de faire des murs. Donc, essayons aussi ensemble, dans notre pays, de faire en sorte que les acteurs de la société civile, on est dans une grande démocratie, donc vous pouvez avoir un travail de plaidoyer, vous pouvez avoir un travail de ne pas être d'accord avec les politiques décidées par les gouvernements ou les parlements. Mais je crois que si on est dans la posture. Je me permets de vous le dire, parce que c'est encore une fois des discussions que j'ai avec beaucoup de responsables de grandes ONG françaises. Si vous êtes dans la tranchée en attendant que les balles et en faisant en sorte que les balles ne viennent pas sur vous, on n'y arrivera pas. On ne peut pas compter simplement les bons, les mauvais points, et puis il y a les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Moi, je pense que ce n'est pas comme ça qu'on fera le 21e siècle.
Donc, je peux me permettre de vous répondre?
Ah ben oui, je vous en prie.
Là, je pense que vous manipuler un peu le débat. Moi, j'ai été très claire, je vous ai dit qu'on n'est pas là pour faire de la politique et changer la politique intérieure du pays. Vous faites des choix. Moi, je parle d'humanité, d'humanitaire, de personnes qui sont à la rue, je vous parle de points pragmatiques. Donc, je ne suis pas là pour critiquer vos méthodes, je suis là juste pour vous alerter et vous dire « Désolé, monsieur, vous avez un discours d'accueil qui, dans la réalité, au quotidien, ne se voit pas. » Parce que nous avons des milliers de personnes à la rue, nous avons des expulsions, nous avons des problèmes d'accès aux soins. C'est tout ce que je vous dis. Je ne suis absolument pas là pour critiquer ce que vous tentez de faire, et j'imagine que l'exercice ne doit pas être facile. Je suis juste là pour vous alerter sur des situations qui, à mon sens, ne sont pas acceptables en l'état, ou en tout cas, que nous pourrions peut-être, là, d'un commun accord, tenter de trouver des solutions, parce que... Enfin, à vrai dire, je ne sais même pas comment les trouver, les solutions. Hein. J'ai pas les réponses. Hein. Mais quand je vois effectivement des expulsions sous prétexte qu'il faut faire de la place pour les primo-arrivants de centres d'hébergement d'urgence où on remet à la rue des familles avec des enfants, je me dis, mais ça, c'est un non-sens. Parce que vous déplacez le problème. Vous remettez à la rue des gens qui sont des soi-disant illégaux, des illégaux que vous considérez comme illégaux, soit. C'est un choix politique, cela reste des êtres humains et ça devient un problème de santé publique derrière. Et ça va avoir un impact. Ça va avoir un impact en santé publique, ça va avoir un impact sur la population française qui ne comprend pas bien ce qui se passe. Ça va énerver des associations militantes. Je ne suis pas une association militante, je vous assure. Et je vous rassure. Je vous titille volontairement parce que je pense qu'il y a des débats qui ne s'ouvrent pas sur un problème complètement pragmatique. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire.
Et juste pour dire le mot de la fin, parce qu'on a déjà beaucoup dépassé. Madame, vous aviez une question ? Oui, deux questions, mais trois questions. Bon, alors, je vais les prendre très rapidement, mais juste pour dire quelque chose. Je pense vraiment que personne n'est dans une posture ce soir, et c'est bien ce que j'apprécie. On est dans ce qu'on aime, nous, à Confrontation Europe, ce qu'on aime appeler, d'ailleurs, une conflictualité positive. Et Corinne Thor a demandé à vous rencontrer, et j'espère que ce sera le cas. Voilà, une passerelle. On l'est aussi, on aime être un pont. Madame... Madame Guillardi et Madame... Monsieur. Je suis fatiguée. Excusez-moi. Madame.
Je vais demander aussi de travailler sur les questions européennes pour la situation de cancer des îles. J'ai une question un peu plus précise pour monsieur l'ambassadeur et le grand politique. Le taux de protection est assez similaire en France et en Allemagne, de 30 à 40%, mais il existe en Allemagne un statut qui n'a pas trop d'équivalent en France, les bonhommes, les personnes tolérées qui sont un peu dans un entre-deux. Je me demandais, technique, mais qui des personnes, qui des demandeurs d'asile déboutés contre ce statut de doudou, quelles sont leurs perspectives d'intégration en fait, parce que c'est des personnes qui sont quand même normalement, qui doivent être entreprises dans leur pays. Donc, quelles sont leurs perspectives d'intégration et comment elles sont battues par la société?
Merci. On doit prendre des questions rapides et c'est très bien. Merci madame. Du coup, madame aussi, oui, pardon. À qui ?
Je m'interrogeais, peut-être monsieur le préfet, je m'interrogeais en fait sur l'allocation des demandeurs d'asile qui est très faible, hein, qui nous offre de 5-6 euros par jour.
Presque 7.
Pardon ?
Presque 7, je ne sais plus, 6,80.
J'imagine que la partie autour de 200 euros par mois.
Ça dépend si vous êtes hébergé ou pas.
Voilà. Et je me demandais comment est-ce que. Comment est-ce qu'on peut vivre avec ce que j'entends là, qui est quand même relativement modeste, et est-ce que dans la réalité, peut-être que ça revient en fait à la question précédente, il n'y a pas un certain nombre de demandeurs d'asile qui sont obligés de travailler dans le secteur informel, par les pays noirs, et donc, d'une façon, est-ce que finalement là, il n'y a pas une main-d'œuvre au marché qui se trouve donc à disposition de ces questions-là. Et comment est-ce qu'on peut gérer cette question-là ?
Merci, oui. Donc une question sur le travail informel, madame. Guillaume, oui. Les accompagnants. Et monsieur ?
Une dernière question, hein, je serai très bref.
Oui, qui êtes-vous ?
Moi, je viens du monde de l'aviation, donc je suis amené à voyager très souvent dans le Moyen-Orient, et je m'intéresse beaucoup à ces questions migratoires, puisque je connais très bien les pays là-bas. Donc, une question qui s'insère dans la continuité des propos de son Excellence l'ambassadeur de l'Allemagne. On voit que le règlement de plan ne marche pas, donc il est à refonder. Donc, cette question est plutôt posée vers monsieur le représentant de la Commission européenne. Est-ce qu'aujourd'hui, dans une situation où on a à peu près 3,6 millions de réfugiés syriens en Turquie, il y a une stratégie, un plan en Europe, dans le cas où M. le Président de la République turque décide de les laisser entrer en Europe, comme on a vu plusieurs fois évoquer cette menace dans les médias, surtout ces dernières semaines. Et je me demande, est-ce qu'on est prêt à accueillir ces gens et comment est-ce qu'on va gérer ces problèmes au niveau européen, puisque la Bulgarie, le pays dont je suis ressortissant, et la Grèce ne pourront pas gérer ça, il faut l'avouer.
D'accord, merci.
Dans un contexte où même des pays comme la France n'arrivent pas à gérer ça.
Antoine Savary vous répondra. Vous avez raison. Monsieur l'ambassadeur, on est obligé de faire vite. Vous avez plusieurs questions. Oui.
Merci beaucoup. Très, très rapidement. J'ai aujourd'hui en Allemagne à peu près 55 000 personnes qui sont déplacées, qui